I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Chers auditeurs d'À Poil, je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast et après plusieurs mois de pause, je suis ravie de reprendre le rythme avec un format quasi identique à ceci près que le podcast est désormais intégré à La Relève, l'agence foot que j'ai cofondée en 2020 avec Margot Décatoire. Pour vous en dire un peu plus, La Relève, c'est à la fois une agence d'influence food, incluant management et booking de talents, et une agence créative qui imagine des projets culinaires pour des marques, des lieux ou des événements. Ainsi, le podcast évolue tout en continuant à passer à la poêle des chefs, des talents food marquants de différents univers, managés en interne ou des coups de cœur, des personnalités qui forment en tout cas ce que nous pensons être une certaine relève food au-delà de l'agence. Dans ce premier épisode de la nouvelle ère d'À Poil, je reçois un de nos chefs chouchous, un jurassien pur jus, comme moi, étalon de La Relève, Mathias Marc.
C'est le truc où je me lève depuis 15 ans pour ce projet-là, quoi. Donc non, puis le truc d'équipe, de faire ça avec toute cette team-là, où on s'est battu pour, on a réfléchi pour, on a... Non, c'est pas un truc qui est arrivé facilement, et je pense qu'en plus, du coup, quand ça arrive pas si facilement que ça, tu t'as un plaisir qui est décuplé, quoi. Non, on a fait la bringue pendant un mois, quoi. Non-stop.
À peine 30 ans, associé dans 3 restaurants, candidat phare de la saison 12 de Top Chef, étoilé, Mathias Marc enchaîne les projets à 1000 à l'heure. Insatiable bon vivant, vrai passionné de produits et de vins rares, le jeune homme qui a grandi dans une famille d'exploitants forestiers ne renie pas ses origines, bien au contraire. Il les sublime et les décline au gré de ses établissements, dans une cuisine en clair-obscur, tantôt captivante, tantôt taquine. Avec Mathias, nous avons parlé du Plaza Athénée, d'énergie urbaine et de Mont d'Or. Bonne écoute. Bonjour Mathias.
Bonjour.
On a un point commun tous les deux. On est aussi chauvins l'un que l'autre. Et pour défendre la même région, le Jura, t'as toujours été attaché à ta région ?
Toujours attaché, et je pense que le chauvinisme, ça fait quand même partie de nos racines, et j'aime bien en jouer, hein. C'est vrai que j'aime bien en jouer. Et oui, toujours très attaché, parce que j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas, et puis je pense que c'est un terroir qui est marquant, donc ouais, non, j'adore.
Est-ce que ça s'est développé aussi en quittant la région ?
Je pense que tu mets le point sur quelque chose que tu connais bien, parce que c'est vrai que je pense que... Que, comme dirait Aurel San, la terre est ronde, quoi. Et c'est vrai que quand tu t'en vas de quelque part, tu te rends compte souvent que chez toi, c'est quand même souvent c'est très sympa. Et ça te manque particulièrement, quoi, quand tu t'en vas.
La cuisine, c'est venu comment ?
La cuisine, c'est venu de manière assez spéciale. Je vais pas raconter d'histoire sur le fait que ma grand-mère cuisinait très bien, parce qu'en vrai, elle cuisinait très bien. Mais c'est pas ça qui m'a attiré vers le métier de cuisinier, en tout cas. Je pense que le côté famille m'a plus amené le côté produit, voilà, verger, vigne, jardin.
Accessibilité à tous ces produits-là, en fait, dans la nature aussi.
Exactement, je pense qu'on est né dans une région où il y a vraiment des produits qui sont très marqués et très simples à la fois, mais vraiment très bons. Et donc c'est sûr que ce côté famille m'a amené tout ça. Ensuite, pour la cuisine, c'est complètement différent. J'ai un oncle qui est chef de cuisine et qui était chef de cuisine du Place d'Athénée à l'époque, qui a été chef pendant 25 ans là-bas. Et c'est lui qui m'a fait venir à Paris pour faire un stage de troisième. Et en fait, je suis tombé assez vite red dingue du boulot, parce que quand j'ai vu en fait un peu l'énergie qu'il y avait et la dualité entre deux mondes, entre le monde un peu de la rigueur brigade, du travail en équipe, hein. Je suis quelqu'un qui sait pas être tout seul, tu vois. J'ai toujours besoin de monde autour de moi. Donc là, j'ai senti qu'il y avait vraiment une énergie d'équipe. Et à côté, le côté hyper créatif, où tu peux créer des plats, où tu peux jamais t'ennuyer, tu vois.
Donc t'es en troisième, t'arrives dans cette brigade à ouais. Paris, tu sais pas trop à quoi t'attendre, ni...
Bah clairement, j'ai
t'as dû halluciner,
pris...
quoi.
Ah bah oui, j'ai jamais pris déjà rien que TGV, quoi, tu vois. Un délire, hein. Je me retrouve gare de Lyon, je fais OK. Donc voilà, j'arrive ici, j'ai 14 ans et demi, et donc j'arrive directement au Plaza, et je vois ce fourmillement dans les cuisines, l'énergie qu'il y a. Ça fait un peu peur, quand même.
T'as fait quoi? Je sais même pas si tu veux t'éplucher des patates au Plaza, mais...
En vrai, j'ai déjà appris à tenir un couteau, quoi. Tu vois, déjà, pour commencer. Et ensuite, bah ouais, je faisais des herbes. Après, j'avais le droit de dresser un petit peu les mises en bouche. Tu vois, tu commences souvent par ça.
Et donc là, tu repars dans le Jura et tu dis que tu vas faire l'école hôtelière.
Bah, je dis à ma mère, écoute, maman, du coup, je veux faire cuisinier, quoi. Elle me dit, hop, Mathias, quand même, est-ce que t'es sûr, c'est pas une lubie, quoi. Tu vois, c'est... Et en fait, je sens que ça ne fait pas forcément plaisir. Et forcément, jeune homme de 14 ans et demi avec la tête dure, si ça ne fait pas plaisir à ma mère, mais purée, je vais faire ça, du coup.
Deuxième raison de...
Ah ouais, non mais genre, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait en me déconseillant de le faire, quoi. Franchement, je serais dans un cabinet de je ne sais pas quoi, tu vois, je ferais autre chose, quoi.
T'étais bon élève ?
J'étais bon élève, ouais.
Ouais, donc d'autant plus... Ta mère a été peut-être d'autant plus déçue que tu poursuives pas tes études, ou...
Bah, au début, non, je pense qu'elle est pas forcément déçue, tu vois, mais elle avait un peu peur, parce que c'est vrai que c'est un métier ou un univers où quand tu te lances dedans, tu peux quand même, c'est tout sauf général, quoi. Donc, si tu fais 3 ans et que tu te rends compte que tu veux faire autre chose, bah, tu perds quand même 3 ans, quoi. Comme toute personne normalement constituée, je pense que ça fait un peu peur. Surtout que c'était pas un truc que je voulais faire depuis 10 ans, tu vois. Donc je pense que normal, elle a mis ouais. son veto, mais bon, vu comme j'avais la tête dure, ça a plutôt renforcé l'idée qu'il fallait que je fasse ça, quoi.
Donc t'es rentré à l'école hôtelière de Poligny.
Exactement. École hôtelière de Poligny. Quelle école?
C'était comment?
Écoute, j'en garde des souvenirs vraiment géniaux. Beaucoup de rencontres de mecs avec qui je suis encore pote aujourd'hui. En fait, c'est un tout petit village de, je dirais, peut-être 3000 habitants, entre 3 et 5000 peut-être, en fonction des étudiants. Et en fait, c'est très joli, tu connais très bien.
Bon, oui.
Voilà, c'est vraiment, c'est hyper sympa et c'est très familial. En plus, on était à l'internat, tu vois, donc tu te retrouves avec 120 mecs dans un étage, dans un internat. Bon, il y a des conneries de fête, hein, forcément, mais tu rigoles bien.
Donc là, c'est tes débuts en cuisine. T'es pas déçu, tu t'accroches tout de suite, ça te plaît.
En fait, je me dis bon, j'ai décidé de faire ça. Et j'ai pas tout de suite la passion de la cuisine en fait qui arrive comme ça, quoi. Je pense que s'il y a des jeunes qui m'écoutent, c'est un truc. Je pense que c'est l'appétit vient en mangeant, quoi.
J'allais te demander si t'avais eu la révélation. Quand est-ce que tu l'avais eu? Et en tout cas, tu l'as pas eu tout de suite, quoi. C'est un truc qui est venu progressivement.
Ouais, c'est un process qui met du temps. Je veux dire, quand t'arrives et que tu te rends compte que tout est compliqué, qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de choses à savoir. Enfin, franchement, là, tu te dis waouh, je vais jamais y arriver, quoi. Et puis au début, t'en fais des conneries, quoi. Franchement, c'est un truc de ouf, tout ce que tu peux cramer. Et donc, du coup, ça met du temps un peu à venir. Par contre, quand ça vient et que tu commences à prendre plaisir, à comprendre les produits, à voir un peu les relations, à commencer à créer, même si des fois, voilà, tu penses inventer un truc, tu vois, genre t'as 15 ans, 16 ans, tu te dis waouh, j'ai fait un coulis poivre en ananas, c'est un délire, tu vois, genre si c'est bon, je vais avoir trop de tôle, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça vient en cuisinant, et puis l'énergie qu'il y avait dans cette école, je pense, m'a beaucoup aidé.
Et est-ce qu'il y a un moment, enfin, ou quand même un truc, enfin, un souvenir où tu dis là j'ai eu la révélation, enfin, il y a, est-ce qu'il y a un,
je pense
un passage, tu vois, ou quelque chose de très identifié dans ta tête?
Je pense que c'est plusieurs moments. Il y a à la fois le, je bossais pas mal avec un copain qui s'appelait Toto, qui avait un bistrot dans mon village, et j'allais toi l'aider le week-end pour gagner un peu de sous et pour aller boire des bières le reste de la semaine. Et en vrai, bah tu vois, je voyais vraiment ce regard qu'ont les gens et le plaisir que tu peux donner. Et du coup, bah, tout simplement, tu passes de l'élève de troisième à un an après, bah t'es considéré pour ce que tu fais, parce que je faisais des desserts, je faisais des tiramisu à la framboise, j'ai l'angoisse
en plein hiver.
Ah ouais, non, mais des trucs, non je faisais ça, des mousses au chocolat et tout, mais c'est dans mon village, quoi. Et les gens, ils étaient super contents, et en fait le regard aussi et la perception que les gens ont de nous, tu vois, c'était un truc qui m'a assez vite créé le déclic, quoi.
T'as eu tout de suite l'envie de travailler avec une élite gastronomique et de côtoyer l'excellence?
Tout de suite. Je pense que c'est
le stage au Plaza.
Ouais, je pense que de démarrer le stage au Plaza, déjà, ça m'a. J'avais envie de faire ça, d'aller au plus dur tout de suite, en fait. Et je pense qu'aussi le fait que mes parents soient un peu quand même. Et un peu peur que je me lance là-dedans, ils m'ont tout de suite dit fais tout de suite le plus dur, parce que qui peut le plus peut le moins, quoi. Et je me souviens d'une discussion, voilà, hein, ça peut être. Je vais pas être péjoratif. Mais que ma mère m'a dit clairement, c'est cuisinier, tu peux avoir 3 étoiles comme être cuisinier chez Buffalo, quoi. Et elle m'a dit ça mot pour mot. Et c'est vrai que c'est quand même pas le même délire, quoi.
Ouais, t'as tout de suite choisi.
Je me suis dit qu'il fallait mieux tirer vers ça, quoi. Ouais, il fallait mieux essayer d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre le plus vite. Et après, je ferais ce que. Et tu vois, aujourd'hui, je pourrais très bien demain avoir un bistrot de campagne et tout et me régaler. Mais je pense que quand t'as été vers le dur, ben derrière, tu. Peut prendre plaisir plus facilement, même dans le plus simple.
Et le dur, mais aussi le précis, le technique, le. Enfin, tu vois, il faut aussi aimer la rigueur et voilà.
La précision.
L'excellence, quoi. Ouais. Enfin.
Bah, clairement, je pense que c'est. Ça fait un peu partie du plaisir que tu peux prendre dans ce métier, dans le sens où l'hyper précision, au début, ça fait peur. Mais quand tu commences un peu à toucher tes trucs et à maîtriser, à gérer tes cuissons, à faire des choses qui sont de plus en plus précises, de plus en plus régulières. Mais il y a quand même un espèce de truc où tu te sens que tu commences à maîtriser un peu ton métier et là, ça devient très plaisant, quoi. Après, cela n'empêche que, mais je peux te dire, on voit encore énormément de conneries, quoi. Des fois, on fait des essais sur des trucs simples et on n'y arrive pas. Et en vrai, c'est quand même un métier de putain de persévérance, quoi.
T'as travaillé avec Michel Portos au St. James, Alain Ducasse à Monaco et à Paris, chez Lasserre avec Christophe Moret.
Ouais.
Et tu rêvais, tout ça fait que tu rêvais d'étoiles?
Je pense que je vais avoir un double discours là-dessus. J'ai toujours rêvé d'étoiles très très jeune. Quand j'étais chez Michel, des étoiles, arriver à Paris, Monaco, tout ça, c'est vraiment un truc qui me bottait. Et en fait. Il y a eu une petite période où ça m'a un peu moins travaillé, où j'ai un peu compris aussi la puissance de Paris, où j'ai vu qu'il y avait plein de restaurants qui étaient pas étoilés, où c'était ouf, tu vois. Et
comme quoi, par exemple?
Je me souviens, en vrai, quand j'allais chez Racine 2, tu vois, avec Alexandre Navarro, où t'allais à Clamato, où t'allais, je sais pas, il y a plein d'adresses. Attends, une adresse qui m'avait marqué, je me souviens toujours, c'est Pirouette, à l'époque avec Tommy et Gousset.
Ouais.
C'était remarquable, quoi. Et c'était des mecs un peu qui sortaient de gastro. Et aujourd'hui, Tommy est étoilé aussi, tu vois. Mais c'était une cuisine qui était complètement décomplexée. Et là, je me suis dit peut-être que l'étoile n'est pas une fin en soi. Ça t'enlève aussi un peu de pression, tu vois. Genre de te dire, ah, putain, je peux kiffer vraiment ce taf sans forcément un jour me dire je dois être chef étoilé, quoi. Et après, c'est vrai que c'est revenu quand même. Chasse naturelle et galop, quoi.
Est-ce que t'as eu un chef ou une personnalité qui t'a particulièrement marqué, inspiré dans ton parcours? Tu parlais de Lolo.
Toto,
pardon.
Ouais, ouais, bah Toto, bien sûr, Toto. Sur le côté aubergiste, hein. Paix à son âme, mon ami Toto est parti il y a peu de temps, mais dans le côté aubergiste, ouais, bien sûr, c'est un mec qui m'a tout appris, beaucoup donné, et puis on s'est bien fendu la gueule, quoi. Franchement, j'ai des souvenirs mémorables avec lui. C'était vraiment quelqu'un qui faisait une cuisine sincère, avec des bons produits, et puis surtout qui avait une manière de gérer l'humain, que ce soit les clients, que ce soit le staff et tout. C'était un personnage. Donc ouais, on va dire Toto vraiment pour ce côté accueil. Et après, Michel Porto aussi, c'est quelqu'un qui m'a marqué sur le caractère, le charisme et puis le talent, quoi. Genre, je me souviendrai toujours, c'est vraiment un mec qui était capable, en une demi-heure, tu peux avoir ses sous-chefs qui faisaient des essais pendant des heures, et lui, en une demi-heure, il arrivait, il prenait trois trucs, et puis il faisait un truc génial, quoi. Et ça m'a marqué.
T'as dit que tu t'as pu rêver d'étoiles, mais est-ce que tu rêvais aussi d'être chef de ton propre établissement est-ce que c'était un but aussi est-ce que finalement tu l'as accompli assez jeune, à 25 ans?
Ouais.
T'es devenu chef de substance, chef associé, enfin je sais pas comment tu dis.
Ouais, ouais,
Mais ouais, est-ce que c'était voilà, tu savais tout jeune que à la fois t'avais envie de côtoyer l'excellence, mais t'avais aussi envie de créer ton propre établissement.
Ouais, je m'étais fixé un peu ce goal là assez jeune, de me dire ouais, faut qu'à 30 ans j'ai ma tôle, quoi. C'est un peu le truc.
Pas la Rolex, mais ta tôle.
Ouais, non, c'est sûr que la Rolex, je pense que je l'aurai jamais, mais ouais, ma tôle, je voulais. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs, hein, tu vois. Genre, six générations d'exploitants forestiers au-dessus de moi, mes oncles qui sont pas là-dedans ont leur boîte, et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais. Et pourtant, j'avais pas forcément de mal à me faire diriger ou quoi que ce soit, mais. Au contraire, j'étais vraiment dans le respect de la hiérarchie et tout. Tu vois, ouais. C'est juste que j'avais envie, j'en avais besoin. Et
à
plutôt
quel
que.
Niveau? Parce que c'était un truc en toi, ou parce que t'avais envie de décider, tu vois, d'être chef et directeur artistique de ton propre restaurant, de prendre des décisions, tu vois, qu'est-ce qui te.
Je pense que c'était vraiment intérieur, quoi. Tu vois, genre, je peux pas forcément mettre deux mots là-dessus. Et souvent, quand je dis un peu la chance du débutant, tu vois, je trouve que c'est vraiment un vrai truc, quoi. Tu vois, genre, plus t'en sais, plus ça fait peur, des fois. Tu vois. Genre, des fois, je me dis, putain, les burnes qu'on a eues, quand même, tu vois, avec Stéphane, de se lancer. Enfin, je veux dire, il vendait des bagnoles. Moi, j'étais sous-chef de Racine des Prés. On a quand même. Il a énormément investi. Moi, j'aurais pu vraiment me cramer. On a quand même. Et peut-être parce qu'on n'avait pas conscience de tous les dangers aussi, tu vois. Et après, voilà, force de travail, ben, ça paye. Mais des fois, je me dis, faut mieux pas tout savoir, quoi. tu vois ce truc ou pas?
Totalement.
C'est de quoi tu parles. C'est de quoi je parle, pardon. Voilà, c'est ça. Mais bon, au final, une fois que t'es dedans. Tu vois, si t'en veux toujours plus, c'est la roue du hamster. Hein. Plus tu cours, plus t'as envie de courir vite, quoi.
Ouais, et Substance, c'est le premier restaurant du groupe Éclore.
Exactement. Ouais.
Ouais. Et donc, vous êtes rencontrés comment? Tu disais que t'étais sous-chef de Racine des Prés.
Ouais, en fait, en gros, ben, c'est un peu la période où j'en ai parlé tout de suite. La période où je sortais du Meurice et j'avais envie de me retrouver dans une brigade plus petite et à taille humaine. Et j'étais très pote avec Alex Navarro, qui est un putain de chef. Et qui m'a proposé de venir l'accompagner pour l'ouverture de Racine des Prés. Et moi, je suis venu avec un ou deux potes. Et puis voilà, on a bossé pendant un an et demi. Et en fait, il m'a vraiment appris à déjà, c'est un très bon cuisinier, mais il m'a appris en plus vraiment à gérer une petite tôle. Et puis c'est quelqu'un qui est soucieux, qui fait attention aussi à chaque dépense et tout ça. Tu vois, genre vraiment, il gérait le restaurant comme si c'était le sien, puis c'était bien géré, quoi. Et donc ça m'a permis vraiment d'apprendre tout ça. Et ensuite, en cuisinant au comptoir là-bas, j'ai rencontré Stéphane qui lui cherchait un jeune chef. Puis voilà, le feeling il est bien passé, quoi. Et en fait, Stéphane, moi, quand il m'a proposé le projet, je lui ai dit, écoute, moi je veux des moyens humains. Parce que j'avais souvent eu des gens qui m'avaient proposé des trucs, mais j'avais dit, moi je veux des moyens humains, je veux un beau lieu, je veux du matériel, je veux ça. J'ai même pas parlé de salaire, hein. Et je lui ai dit, je veux ça. Et il m'a dit, bah ouais, bien sûr, ça me paraît logique, quoi. Et en fait, je me suis dit, ben ouais, ok, ce mec, il a capté, tu vois, que si tu n'investis pas sur le matériel, l'humain et le produit, ben tu pourras pas faire un truc cool. Et ben, tu vois, il a eu peut-être un bon flair, mais je pense que je l'ai eu aussi, parce qu'aujourd'hui, quand je vois ce qu'il a fait, je pense qu'il a compris quand même beaucoup de choses très vite.
Donc tu as commencé en tant que chef et t'es devenu associé?
Ouais, j'ai commencé en tant que directement associé.
Okay.
Tu vois, Stéphane, il m'a tout de suite mis la main, enfin, mis le pied à l'étrier, pardon, tu vois, où en gros, il m'a dit, voilà, c'est simple, il savait que, il pensait que lui, que j'allais être capable de tenir le truc, et il m'a dit, voilà, tu seras tout de suite plus impliqué. Et puis je pense que c'est, tu vois, un bon choix, parce que après, on a eu nos réussites de nos côtés et tout, et si on est aujourd'hui encore ensemble, c'est aussi grâce à sa perception du business et sa vision du partage et de lancer un jeune, quoi. Je veux dire, il aurait fait comme tout le monde le fait, bah peut-être qu'aujourd'hui, je serais plus là.
Tellement. c'est ici que tu t'es senti chef pour la première fois?
Chef, je sais pas. Je pense que à Racine, j'ai pris confiance en moi et parce que on arrivait à faire des trucs cool à pas beaucoup avec un bon retour client. Ici, après, franchement, j'ai mis la tête dans le guidon, j'ai pas trop réfléchi à ça, quoi. Tu vois, je me souviens, j'ai ouvert ici avec 4 anciens apprentis à moi qui avaient tous 20 ans et un an de cuisine derrière eux. Ou juste Sylvain, qui est aujourd'hui chef de braise, avait un peu plus d'expérience. Mais franchement, on a mis la tête dedans. Je te dis, l'équipe, elle avait 19 ans, quoi. Et moi, j'étais le plus vieux, j'avais 25 ans. Non, mais c'est quand même quelque chose, quoi.
C'est cool, vous avez bien fait évoluer le lieu, d'ailleurs.
Ouais. Ben, en fait, c'est un peu le kiff de... Je trouve, quand c'est à tôle, quoi, c'est de la faire évoluer un peu toujours petit à petit. On a commencé, on était 4 en cuisine, 3 en salle, on faisait 65 couverts. Aujourd'hui, on est 18 sur la structure. Sans parler des bureaux et tout ça, on est 18, on fait 36 couverts et là, on va passer à 32 d'ici peu. Puis, tu vois, on a bien fait évoluer le lieu. Tu vois, au début, on n'avait pas de thune pour refaire les toilettes, après, on les a fait. Là, aujourd'hui, on refait des travaux là dans 6 mois, mais très conséquents, tu vois. Et en fait, il n'y a rien de plus kiffant que de faire avancer ta maison, quoi.
Tu te sens une âme de restaurateur et d'entrepreneur. C'est vrai que t'as vite développé, après avoir développé cette maison, t'as aussi vite développé un deuxième établissement liquide et un troisième, Braise, où t'es associé avec Stéphane dans les deux établissements, si je ne me trompe pas. C'est trois restos où tu explores avec les chefs qui t'accompagnent, trois styles culinaires différents.
Oui.
Ça t'amuse de...
Ben, c'est... En fait, l'évolution en substance aussi m'a fait comprendre que j'allais quand même vers une cuisine et une restauration qui est pas forcément et malheureusement pour tout le monde, tu vois. Et j'avais quand même envie de garder une accessibilité et je pense que Liquide, le fond du projet, il est là. Où on se dit, ok, bon... On augmente les prix parce qu'on réduit le nombre de couverts, parce qu'on met plus de produits de luxe et enfin, de très beaux produits, parce qu'on est plus en cuisine, parce que tout ça. Et d'ailleurs, on se dit, mais enfin, tous nos potes qui venaient et qui fait avoir des menus à 30 euros, ben, on peut plus accueillir, quoi, tu vois. Et du coup, ben, on s'est dit, ben, on va créer un nouveau lieu, Liquide. Coup de cœur aussi pour Jarvis, voilà, sur Top Chef, où je me dis, putain, ce mec, il a vraiment un truc, quoi. Tu vois, genre, quand on dit que c'est le fils naturel de Travis Scott et de Johnny Depp, c'est pas des conneries, quoi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose. Et ouais, tu vois, donc tout ça fait qu'on se dit, bon, ben on crée ce lieu. Et après, là aussi où je pense qu'on a mis un point d'honneur avec Stéphane, c'est que moi, je suis là pour les accompagner, mais je vais pas non plus tirer la couverture totalement sur moi. Et c'est même pas du tout l'idée, c'est eux qui cuisinent tous les jours. Si les clients ils veulent me voir, c'est la substance qu'ils me verront. Je passe bien sûr évidemment dans les autres, mais c'est ma cuisine. Et là-bas, c'est leur cuisine avec le soutien que je peux leur apporter, tu vois.
Plus un soutien d'entrepreneur finalement.
Ouais, d'entrepreneur-restaurateur. Sur la cuisine, forcément, ouais. Tu vois, j'ai quand même ma vision et je trouve que j'ai un palais qui est assez universel, tu vois, généralement, quand je kiffe, les gens kiffent, tu vois. Et du coup, c'est cool parce qu'ils me font confiance là-dessus. Comme moi, je peux... Tu vois, là, il y a une semaine, je change mon menu, je les ai fait venir les deux pour qu'ils me donnent leur avis, tu vois. Ça va dans un sens et dans l'autre, hein. Forcément, je suis un peu plus vieux qu'eux, donc c'est souvent moi qui tranche, tu vois, mais c'est hyper important.
Donc, c'est ici que tu explores ta propre identité culinaire.
C'est ici où je pousse le truc, ouais. Et là-bas, je me permets de faire des trucs ou de soumettre des idées... qui sont peut-être des fois moins personnels, mais qui me plaisent aussi, tu vois. Mais ici, c'est clair ici que j'ai envie de pousser ma cuisine à son maximum.
C'était assez évident pour toi de construire ta personnalité culinaire avec notamment bah, les touches jurassiennes qu'on connaît.
En fait, au début, je me suis plus dit bah, c'est bien de montrer l'identité que tu as. Et en plus, il y a quand même pas beaucoup de à Paris de chefs qui font des enfin qui de chefs dans la gastronomie qui était franc-comtois, tu vois. Bon, aujourd'hui, il y en a un, pas des moindres, Tom Meyer, quand même, qui est monstrueux, tu vois, mais avant ça, il n'y en avait pas trop. Du moins, j'en ai pas la connaissance. Et du coup, ben, c'était cool aussi d'amener aussi autre chose à Paris et de le faire. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas plus facile de faire des trucs bien quand t'es inspiré et quand ça vient du sang, quoi, tu vois. Quand c'est un truc que t'as depuis tout le temps et que t'as dans tes veines, ben en fait c'est pas que pour se donner un style, quoi, c'est aussi plus facile.
Et de faire découvrir des produits que les gens ils connaissent pas forcément, comme la concoyette.
La concoyette, ouais, la morteau, tout ça, c'est des trucs, le mont d'or, machin, d'essayer de les amener sur un registre différent que le dimanche soir en mode franchouillard à 6 avec une bouteille de jaune, tu vois. J'ai envie aussi de montrer que c'est des produits qui peuvent s'affilier à la gastronomie, quoi.
Comme le Mont d'Or que tu avais fait l'année dernière avec la truffe et...
Ah, le Mont d'Or fucker.
Ouais, ouais.
Ah,
ouais, ça. Grand souvenir.
Ouais.
Du coup, est-ce que tu penses avoir trouvé ton style aujourd'hui?
Écoute, je pense que non. Franchement, j'ai pas forcément trouvé mon style. Je sais ce que j'aime. Je sais ce que j'aime pas. Mais je
Qu'est-ce
pense que...
Qu'est-ce que t'aimes pas?
J'aime pas les choses qui sont trop redondantes. J'aime le relief, tu vois. J'aime les menus où, qui explorent des saveurs différentes. Ça peut être un piment de nez, un piment de bouche, une acidité. Enfin, j'aime les fêlures, j'aime le rock, quoi, tu vois. Genre, je pense que c'est ce que j'aime dans la cuisine aujourd'hui.
Les assiettes assez contrastées.
Ouais, enfin, ouais, j'aime clairement les excès dans les goûts et des fois un peu les fêlures. Et je trouve que si tu veux créer de l'émotion aujourd'hui, il faut passer par ça, quoi. En tout cas, pour moi, si tu veux me séduire, une côte de veau, tu vois, avec des champignons, avec des morilles et tout, j'adore, tu vois. Mais c'est pas là où je vais prendre la claque, quoi, tu vois. C'est un peu et c'est pas l'originalité pour l'originalité, tu vois. C'est juste réussir à trouver un peu je sais pas moi, un peu du relief, quoi.
Et qu'est-ce qui t'inspire dans la création de tes recettes?
Ce qui m'inspire, c'est franchement, sans faire de trucs bateaux, c'est déjà le produit. Quand il y a un truc, quand il y a un produit qui est à pleine maturité déjà, je pense que c'est quand même très inspirant. Ensuite, il y a aussi, ça pète tout, quoi. Tu vois, genre, j'ai vraiment pas de. En fait, souvent, je me pose avec mon calepin, je dis putain, il faut que je change ce plat là. Vas-y, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu peux être sûr que je vais aller scroller sur Instagram toutes les merdes de la terre, à regarder des vidéos de chiens en train de faire les couillons, de regarder des vidéos de vélo, des machins.
Ça t'inspire.
Non, mais pendant 2 heures, je vais rien faire, tu vois. Et
c'est devant ta page blanche.
Ouais, voilà. Et que je suis là et je scrolle des conneries. Enfin, voilà. Alors que, au final, des fois, je vais être sur mon scoot et je fais, ouah, putain, ça y est, j'essaie. Et boum, ça arrive, ça déplie, quoi, tu vois. C'est assez hallucinant. C'est des fois je me dis faut que je change, y a rien qui vient, et puis en fait d'un coup je vois un truc ou j'entends quelque chose ou
et là t'as l'idée qui arrive,
ça
pop, quoi.
Ouais. C'est bizarre, hein.
C'est souvent comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui guide tes assiettes?
Je pense que déjà j'ai cette passion transmise par Michel Portos de l'acidité où j'ai besoin de ça pour vraiment casser les gras, les sucres, et ça c'est vraiment mon fil conducteur, tu vois, d'avoir toujours ce lien d'acidité. Donc c'est ça qui me guide, je pense.
Et qui est-ce qui guide tes assiettes? Pas culinairement, mais philosophiquement.
Ouais, ce qui guide mes assiettes, c'est peut-être d'avoir une cuisine qui aujourd'hui est dans son temps. C'est mon envie, en fait, de créer et de laisser un peu au... Enfin, la perspective de ma cuisine que j'ai envie de laisser aux gens, c'est ça, c'est une cuisine qui est dans son temps, qui est avec du relief et qui est marquée par l'esprit franc-comtois, tu vois. C'est un peu les trois choses qui me donnent envie de créer aujourd'hui.
On va faire une petite pause aller-retour. le nouveau questionnaire de la relève, du coup.
Allez.
Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève ?
La relève, hein. La relève, c'est demain, quoi. C'est demain et c'est la formation, c'est qu'est-ce qu'on a envie de leur donner pour que ce métier continue à briller.
Ton nouveau kiff culinaire ?
Je sais pas, je deviens un fan de ramen, mais je suis un peu un...
Là, t'es dans ta période ramen.
Là, c'est ma période ramen, ouais, mais c'est parce que j'étais vraiment un culte. Je connaissais pas.
Et alors, tu vas où ?
J'habite dans le premier, donc...
Ah, t'es bien placé.
Ouais, je vais dans ce fameux quartier de la rue Sainte-Anne, tout ça.
J'aime bien celui qui est rue des Petits Champs.
J'adore la rue des Petits Champs.
Là, orange, il est orange.
Ouais, je vois très bien.
Non, je sais pas le nom.
Je vois très bien.
Ton livre de recettes secret ?
En vrai, je pense que le livre que j'ai le plus poncé et que je trouve le plus inspirant, c'est celui de Mauro, le Mirazur. Magnifique.
Une technique de cuisine découverte récemment ?
Ouais, un truc qui m'a marqué ces derniers temps, hein, c'est Glenn Vielle qui cuisait les riz de veau dans un espèce de papier torque pour pouvoir les serrer. Et en fait, le torque permet d'avoir un échange entre le riz de veau et l'eau pour le nettoyer quand tu le cuis. Et j'ai trouvé ça remarquable. Et du coup, ben, toi, je l'adapte aujourd'hui au resto où j'utilise une partie de sa technique. Et j'ai trouvé ça vraiment, je me suis dit, putain, il y a vraiment des mecs qui voit les évidences, quoi, tu vois. Et Glenn, je pense qu'il en fait partie.
C'est quoi du papier de torque ?
Papier de torque, c'est un... Torque. Pff, c'est comme un torchon, mais en jetable, tu vois.
D'accord, ok. le chef ou la chef montant à suivre ?
Je pense qu'il y a un mec qui m'a assez impressionné cette année, c'est Thomas Graham. Ouais, je trouve qu'il a vraiment une patte, et puis je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui.
Un nouveau compte Instagram que tu veux nous faire découvrir ?
Le compte que je kiffe le plus, c'est le compte de Commensal Bikes & Co. C'est
pas.
Un vélo de descente, lifestyle, voilà, ça, je m'évade quand je regarde ce compte. Désolé, c'est pas de la food, mais faut pas parler que de ça.
Parfait. Allez, on retrouve un rythme plus normal. Qu'est-ce que représente pour toi la cuisine aujourd'hui ?
La cuisine, ça représente avant tout pour moi le partage, le fait de se mettre à table et puis aussi un peu ma vie, quoi. En vrai, souvent je me dis qu'est-ce que je pourrais faire d'autre et en vrai je sais pas trop. Au-delà du fait que je sache pas faire grand chose d'autre, y a pas grand chose qui me donne plus envie.
C'est bien, t'as encore envie.
Ouais, j'ai encore l'envie. L'envie d'avoir envie, ouais.
À 30 ans, te voilà. Non, à presque 30 ans.
Presque, putain.
Presque, reste... pas loin.
Ouais, j'ai chaud dans 10 jours.
Ouais, bon, on peut dire 30 ans. Quand on va passer le podcast, t'auras 30 ans.
Merde.
Te voilà donc à la tête de 3 restos. Est-ce que tu te sens plus chef, cuisinier, restaurateur, entrepreneur ?
Je pense que j'ai différentes casquettes et en fonction de l'heure de la journée, surtout. Il peut tout y avoir. Toutes ces casquettes peuvent arriver en une seule journée. Au service, je suis clairement cuisinier, quoi. Ensuite, les matins et les soirs, c'est différent. Mais...
Et là, présentement ?
Et là, ben, ouais, cuisinier, quoi. C'est quand même ça, pour ça que je me lève le matin. Hein.
Participer à Top Chef, c'était ton idée ?
C'était pas mon idée, je t'avoue, qu'ils m'ont contacté. Après, c'était vraiment une... Je pense qu'ils ont... Ils m'ont contacté vraiment au bon moment, tu vois. C'était pendant le confinement... genre, on était tellement flippés de la réouverture et tout ça que je me suis dit, mais je... Ça peut me mettre un peu de lumière sur le resto, ben je prends parce que j'avais vraiment peur qu'on perde tout, quoi. C'est vraiment une période un peu flippante pour nous.
Donc tu t'es dit pourquoi pas ?
Mais je me suis dit, il faut que je fasse tout pour mettre de la visibilité sur le restaurant, quoi. C'était pas forcément pour moi ou pour passer à la télé ou pour reconnaître ma ganache, quoi, tu vois. C'était vraiment en mode, je sais pas ce qui va se passer demain et si on va galérer ou pas. Donc si je peux mettre de la visibilité sur Substance, je le fais.
Et tu t'attendais au... À cet effet-là, enfin, ça a été quand même assez incroyable, médiatiquement parlant.
Mais en fait, tu te prépares, mais en fait, t'es jamais vraiment prêt, quoi. Genre, les premiers moments où vraiment ça commence à popper pour toi, tu te promènes dans Paname et que tu vois les gens qui te regardent bizarre, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai une crotte de nez, quoi, tu vois. Mais non, en fait, c'est juste que le mec, il se dit, putain, mais il vient d'où, ce mec? Et après, le truc qui m'arrivait tout le temps et qui m'arrive encore et qui me fait trop rire. Et d'ailleurs, sachez que si un jour vous venez me voir et que vous me faites le coup, on va bien rigoler. C'est qu'en fait, les gens, ils se disent. En plus, je dois avoir une tête un peu joviale, tu vois. Parce que, genre, ils disent, putain, mec, on a fait des soirées ensemble et tout. Et moi, je dis, non, mais pas forcément, tu vois. Genre, tu aimes la cuisine ? Bah ouais, grave, pourquoi ? Je dis, tu regardes Top Chef ? oh putain, et là ils comprennent, ouais. Tu vois. Mais si tu les croises dans un bar, ils ont bu 4-5 bières, un mec, ils se disent, mais on a déjà fait la teuf ensemble. Non, non, pas forcément.
Et t'as réussi à t'éloigner en même temps de cette étiquette Top Chef. T'avais, enfin, est-ce que c'était aussi, enfin, c'est voulu. C'était, t'avais pas envie d'être catalogué comme le chef Top Chef.
J'avais pas envie d'être catalogué, même s'il faut pas non plus. Enfin voilà, je suis content de l'avoir fait. C'est un moteur génial et ça a sorti énormément de chefs aussi et ça a fait énormément de bien pour le recrutement. Donc je vais pas non plus. Tu vois, critiquer ou quoi que ce soit, mais c'est juste que, ouais, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, quand on discute avec toi et qu'on ramène toujours à ça, ça peut être chiant parce que tu dis, ok, on fait d'autres choses. Et surtout que pour toi, en fait, c'est il y a 2-3 ans, parce qu'en fait, il y a toujours un décalage avec le tournage et tout. Donc, t'as envie aussi qu'on te reconnaisse pour ce que tu fais maintenant et pas.
Pas juste parce que t'es passé à la télé, quoi.
Voilà, juste parce que t'es passé à la télé. Mais après, voilà, faut reconnaître que ça te fait avancer en tant que cuisinier et puis que c'est un. Programme que je vénère, quoi. Aujourd'hui, franchement, je pourrais jamais dire du mal de ce programme.
Qu'est-ce que cette aventure t'a apporté à part la visibilité médiatique post-Covid?
Je pense que ça m'a fait comprendre que tu peux oser et je pense que je cuisinais plus sec le frama avant et en fait, ça t'ouvre grave les chakras, quoi.
Ah ouais?
Ouais, de ouf. Parce qu'en fait, tu te rends compte que quand tu vas vraiment au fond de toi et que tu oses, souvent c'est tu passes au lieu de faire bon, tu peux faire aussi des conneries mais tu peux aussi faire du vraiment très cool, tu vois.
Et t'as libéré.
Clairement.
Mais
délivré.
Comment, pourquoi?
Parce que tu rencontres énormément de grands chefs, tu te mets aussi beaucoup en danger et je pense que tu passes des caps, quoi.
C'est quoi les épreuves vraiment?
Les épreuves, c'est vénère, quoi. Genre t'as une heure des fois pour sortir un plat. Avec des produits pas évidents et je veux dire, même t'as pas le choix dans tous les
aussi.
Cas, quoi, ouais, et te démarquer, ouais. Puis dans tous les cas, tu peux dire ce que tu veux, quoi, t'as pas le choix. Donc une heure, c'est une heure, hein. Tu perds 3 minutes, t'as plus que 57 minutes, quoi, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu te sors les doigts. Hein.
T'as été déçu de pas aller plus loin?
Franchement, j'étais tellement fatigué que j'étais presque content de rentrer à la maison, quoi. J'étais pas déçu, j'y repensais un peu après, j'ai eu un peu le seum après. Mais en vrai non, j'étais content. J'aurais signé 1000 fois pour être troisième, quoi.
Étoile ou Top Chef, qu'est-ce qui a été le plus important pour toi?
100 000 fois l'étoile, quoi. Genre c'est le truc où je me lève depuis 15 ans pour ce projet-là, quoi. Donc non. Puis le truc d'équipe, de faire ça avec toute cette team là où on s'est battu pour, on a réfléchi pour, on a. Non, c'est pas un truc qui est arrivé facilement et je pense qu'en plus, du coup, quand ça arrive pas si facilement que ça, tu as un plaisir qui est décuplé, quoi. Non, on a fait la baringue pendant un mois, quoi. Non-stop. J'ai perdu des points de vie, hein, je vous le dis. Moi.
Et a posteriori, est-ce que tu peux, par rapport à ce que tu as raconté, est-ce que Top Chef t'a aidé dans la quête de cette étoile en faisant sauter les barrières, comme tu dis?
Mais je pense que ça m'a aidé personnellement, en tant que dans ma cuisine et dans ma vision un peu aussi de ce que j'ai envie d'en faire. Mais je pense pas que ça t'aide en fait sur le point de vue média. Parce qu'au contraire, t'es hyper attendu et du coup, t'as une pression supplémentaire
Moi, je parlais plutôt de cuisine. De cuisine, tu dis que ça t'a libéré. Et tu vois, est-ce que le fait que ça t'ait libéré, que t'aies pu pousser des choses plus loin.
Après,
c'est un peu difficile de.
Non, mais ça m'a libéré. Et après, je vais dire un autre truc. C'est clair et net qu'il y avait plein de choses que j'avais envie de faire, genre passer en menu déguste, pouvoir aussi un peu augmenter mes prix pour pouvoir me prendre des produits un peu différents, et ça c'était pour moi le moyen aussi d'aller pouvoir la chercher. Et le fait que j'ai fait Top Chef, ça m'a aussi rempli le restaurant de manière assez vénère, et du coup je me posais pas la question de si je faisais ces changements, si ça allait être rempli ou pas. Donc tout ça m'a aidé, ça c'est évident.
D'ailleurs le resto est toujours hyper plein, quoi, 2 ans après.
Ouais, le resto est plein depuis l'ouverture, en vrai, ouais. Et ça c'est quand même le plus gros, vu que je suis un mec quand même qui est assez angoissé, c'est quand même le plus grand des plaisirs, quoi. Tu te poses pas la question, il y a du monde, ça vit, tu peux payer tes fournisseurs, ton staff correctement, enfin t'as pas ce stress de ouf que peut être l'entrepreneuriat, quoi. Enfin, on a quand même, le plus gros stress n'est pas là, quoi, tu vois. On a d'autres, mais.
Et il est plein, et il est même plein à l'avance. Enfin, c'est compliqué de réserver.
Ouais, ouais, c'est sûr. Après, c'est ce que je dis souvent quand les gens ils se plaignent par rapport à ça. Je leur dis, mais franchement, je me le souhaite, quoi.
Ouais.
Pourvu que ça dure.
C'est ça. Bon, est-ce que t'as la tentation des fois de retourner dans le Jura ?
Et en fait, j'ai ces tentations très souvent. Je me dis, ouais, j'aimerais kiffer faire une auberge, un machin, un truc. Mais je pense que Paris, ça me manquerait trop. Donc peut-être qu'un jour, je trouverai un rythme un peu différent, où j'aurai une auberge là-bas, mais je pense que j'aurai toujours besoin de Paris.
Une auberge de week-end, pas une maison de campagne.
Ouais, ouais, bah en fait, souvent quand je vois ce qu'a fait Bertrand Grébeau, je me dis que c'est très fort d'avoir cette double vie.
D'ailleurs, tu y retournes régulièrement, notamment la semaine prochaine.
Ouais, la semaine dernière, la semaine prochaine. Ouais, non, je kiffe.
Tu vas en shooting secret?
Ouais.
On a le droit d'en parler?
Bah ouais, grave.
Non, la team talent de l'agence m'a soufflé que t'avais un bouquin en préparation.
Ouais.
Qu'est-ce que tu vas y raconter?
Ben, on va parler un peu de l'univers déjà des produits franc-comtois et de tout ça. Et je pense que c'est un truc qui m'inspire énormément. Donc on va parler de tout ça. Et puis on va aussi faire un petit lien avec cette ville qui m'a aussi fait grandir, qui est Paris.
Ouais, j'allais dire, t'es un cuisinier aussi urbain, enfin, t'as tes racines, mais t'as aussi ce truc de Paris qui te fait vibrer très fort.
Mais clairement, Paris, je trouve qu'il y a une énergie dans la food qui est... Énergie partout, mais dans la food, c'est un délire. Et moi, je suis arrivé comme cuisinier ici, j'avais 20 ans. Ça fait 10 ans que je cuisine à Paris. Enfin oui, c'est Paris qui m'a élevé, qui m'a formé, quoi. Genre oui, je suis fier de mes racines, mais je suis fier de dire que je suis un cuisinier parisien, quoi.
Avec ses racines.
C'est ça.
Très bien, on arrive à la fin. J'ai l'habitude de demander une recette à faire à la maison. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner comme Mathias Marc à la maison?
Franchement, si je vous donne une recette de ouf là.
Allez,
genre
vas-y.
En vrai, recette de ouf. Il faut juste trouver un truc qui est un peu compliqué, mais on va tous se promener un jour en France. Et à côté d'un vignoble, ok? On récupère des sarments de vigne. Tu connais bien, toi. Sarments de vigne, on les met au fond d'une cocotte en fonte. Ensuite, on met un peu de vin blanc, si possible du Jura. Évidemment, du Chardonnay ou du Savagnin.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît, voilà. Ensuite, on va mettre des saucisses de Morteau dans le fond, qu'on va piquer un peu. C'est hyper important pour que le gras y sorte. Et ensuite, on va mettre des pommes de terre juste épluchées par-dessus. Et on va fermer la cocotte, on va foutre ça sur le feu et on va laisser cuire 3-4 heures. Et l'idée, c'est que la vapeur du vin blanc cuise tout ça. Le gras de la saucisse va venir à la fin un peu se lier avec le vin blanc réduit. Et on appelle ça la saucisse vigneronne. Et en fait, c'est un plat qui est fait dans les vignes. Parce qu'en gros, les vignerons, ce qu'ils font, c'est que quand ils font la taille l'hiver, ils démarrent un feu, ils mettent leurs pommes de terre, leurs saucisses, tout ça, et après ils vont bosser. Et quand ils reviennent en bas au feu, ben le feu à moitié éteint, mais tout est cuit, il n'y a plus qu'à manger. Et je trouve que l'acidité du vin blanc avec le grain un peu de la saucisse, les pommes de terre cuites dans ce côté, dans ce nuage un peu fumé, tu vois, c'est un délire, c'est trop bon, c'est trop simple.
Ça a l'air trop bon. Je m'y vois déjà.
Ouais.
Merci Mathias.
Merci à toi Julie.
Vous venez d'écouter l'interview de Mathias Marc. Pour goûter ce qu'il a dans la poêle, rendez-vous dans ses restaurants parisiens, Substance rue de Chaillot dans le 16e, Liquide rue de l'Arbre Sec dans le 1er arrondissement et Braise rue d'Anjou dans le 8e. Vous pouvez accéder à toutes les infos dans la description de l'épisode et évidemment suivre le chef et ses restaurants sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et suivre À Poil Podcast et La Relève sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site agence-larelève.com et suivre À Poil Podcast et La Relève sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été monté par Carence Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans un mois pour un nouvel épisode d'À Poil.